Il y a une déclaration qui avait été faite par la ministre de l'Éducation, Claire Johnson, sur les résultats en littératie dans les districts scolaires francophones, ben de celui-là ici, là, le district scolaire francophone du Nord-Ouest. Et c'est une déclaration qui a chicoté justement les gens du district de la région et des régions autour de nous. Et avec nous pour en parler, Luc Caron. Tout d'abord, Monsieur Caron, qu'est-ce que c'est la littératie et qu'est-ce que c'est la littératie structurée? Parce qu'on en parle beaucoup là-dedans, ou est-ce que la ministre affirme que les résultats sont insuffisants au DSFNO?
Oui. Bonjour, Michael. Merci pour le temps d'antenne. Lorsqu'on parle de littératie, c'est vraiment toutes les pratiques qui entourent l'apprentissage de la lecture au sein de nos tout-petits, surtout de maternelle à troisième année. Et lorsqu'on parle de littératie structurée, bien, c'est vraiment un programme, comme qu'il dit bien, structuré, avec des temps précis là, à chaque jour, où on développe justement les compétences de lecture chez nos petits. Puis c'est ça un peu là, qui m'a chicoté avec les propos de la ministre de la semaine dernière, lorsqu'elle a mentionné que les élèves francophones ou le système francophone avaient encore du chemin à faire en littératie, parce qu'ils n'avaient pas adopté le modèle de littératie structurée qui est effectivement basé sur la recherche. On tient à rectifier des messages à cet effet-là, parce que ce n'est pas un chapeau que le DSFNO est prêt à porter, loin de là. Parce que ça fait depuis 2013 qu'on travaille fort d'arrache-pied pour instaurer un programme structuré de rigueur sur l'ensemble de nos 18 écoles, qui fait qu'aujourd'hui, là, on a un programme solide qui fait l'envie là, de bien des districts scolaires dans la province, de maternelle à troisième année, et qui fait en sorte là, qu'on est capable de dire qu'on assure des bases solides à nos jeunes en littératie au niveau du DSFNO. Puis nos résultats le démontrent. Donc, contrairement à ce que Mme la ministre a mentionné la semaine dernière, que les districts scolaires francophones n'atteignent pas les cibles, ce n'est pas le cas ici. Ici, au DSFNO, les résultats qu'elle mentionnait, c'était en lecture troisième année. Nos élèves ici réussissent de cette évaluation-là à un taux de réussite de 75%. Donc ça, c'est 5 points au-dessus de la moyenne provinciale. Et c'est 3,5 points au-dessus des cibles d'amélioration qu'elle a mentionné dans sa sortie.
Mais là, oui, excusez-moi, juste parce que là, si elle affirme tout ça, c'est qu'elle doit avoir des chiffres entre les mains, puis là, vous n'avez pas les mêmes ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que, dans la communication, là, c'est quoi qui a planté en bon français? Désolé, là.
Bien, c'est parce que Mme la ministre compare l'ensemble des districts. Je comprends là, qu'elle n'irait pas identifier le district par district. Donc, elle parle ici là, des résultats francophones. Maintenant, moi, je ne suis pas le porte-parole pour l'ensemble des districts francophones, mais je vais prêcher pour ma paroisse. Puis quand que j'entends des commentaires comme ça, ben mon personnel veut pas, c'est dévalorisant pour eux. C'est dévalorisant surtout du fait que ces gens-là travaillent fort extraordinaire pour arriver à avoir un programme de qualité sur l'ensemble de nos 18 écoles. Puis c'est pas juste une question aussi de mon personnel, c'est une question des parents aussi. Nos parents qui entendent des messages du genre, bien, ça brime la confiance de nos parents envers le DSFNO. Fait que c'est pour ça là, que je tenais là, à sortir un communiqué de presse pour qu'on puisse rétablir les faits entourant ça. Donc, nos jeunes réussissent très bien au DSFNO. On est chef de file au niveau provincial lorsqu'on parle de résultats en littératie de deuxième et de troisième année. Je suis très fier de le dire, mais ça, c'est pas moi qui a créé ça. Ça, c'est mon personnel qui mérite là, toutes les fleurs pour cette situation-là.
Parce que vous, ça fait longtemps là, que vous l'enseignez sur la littératie structurée, que vous l'appliquez, en fait. Là, on parle de 10 ans, là, c'est bien ça?
Depuis 2013 qu'on travaille à ce niveau-là. Puis, Michael, je n'ai même pas parlé ici là, de tous les autres programmes qui touchent la littératie pour essayer d'assurer des bases solides pour nos jeunes. Comme exemple, notre programme Blizz Lecture, Rap Lecture, notre programme de lecture estivale, notre programme de lecture en famille. Donc, c'est toutes des initiatives qui viennent bonifier ce qui se fait dans nos écoles et qui fait en sorte qu'on est capable, on est capable de saluer les résultats là, qu'on vous présente aujourd'hui.
Donc, depuis qu'elle a fait sa déclaration, vous, votre communiqué, est-ce qu'il y a eu un contact entre vous et la ministre ou quelqu'un dans son entourage? Est-ce que vous espérez, sinon, en avoir?
Pas encore, mais j'avais mentionné à quelqu'un de son entourage que nous allions justement parler des résultats pour notre district, puis évidemment dénoncer certains propos qui nous touchaient plus directement.
Parlant d'école, parlant du district scolaire francophone du Nord-Ouest, là, il y a le gouvernement là, qui a lancé une espèce d'alerte là, en disant qu'il y avait peut-être un petit problème là, au niveau de quelques écoles dans la province parce qu'il y a des écoles qui comptent moins de 100 élèves. Il y en a 34 dans la province et 10 dans les districts francophones. Au DCFNO, c'est 2. On parle de peut-être consultation prébudgétaire. Peut-être que ça coûterait trop cher là, à la province d'entretenir, d'avoir ces infrastructures. Structure-là et pas beaucoup d'étudiants à travers ça. Est-ce que ça s'en est une autre déclaration, une autre annonce qui vous a fait titiller?
Bien, écoute, c'est certain que ça nous a surpris, cette question-là, dans les sondages pour les consultations prébudgétaires. Mais on ne sonne pas d'alarme là, avec ça là, tout de suite. On attend de voir ce que les résultats du sondage vont donner. Je peux quand même rassurer là, mes deux communautés qui sont ciblées qu'il n'y a pas du tout là, de conversation à la table du conseil d'éducation pour faire des études de viabilité pour ces écoles-là. C'est pas à l'ordre du jour du tout. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux dire là-dessus parce qu'on n'a pas plus d'informations.
Oui, mais on regarde les chiffres, là. Oui, on parle de moins de 100 élèves. Bon, à l'école communautaire Saint-Joseph, c'est 89. On est près du 100, là. Mais à l'école communautaire à Saint-François, là, Ernest-Land, on semble se demander si dans les prochaines années, il n'y aura pas un chiffre très, très, très bas parce que présentement, c'est seulement 60. Comment on fait pour avoir la viabilité là, d'une école dans ce sens-là? À quel point, je veux dire, c'est pas évident, tu as de la grosse bâtisse et tout, le personnel à travers ça pour seulement 60 élèves. Mais on regarde côté géographique, où est-ce que ces élèves-là iraient étudier aussi? Tu sais, c'est quand même plus loin là, que peut-être que le centre là, du Nord-Ouest.
Oui, il y a plein de facteurs qui entourent toute la question d'étudier la viabilité d'une école, Michael, par rapport aux infrastructures environnantes, par rapport à l'état de l'infrastructure, par rapport aussi à toute la question là, de la communauté, parce que la communauté a un mot à dire là, dans tout ça. Là. T'sais, si on prend l'exemple des communautés comme Saint-François, où on a des employeurs majeurs de la région, mais veut pas, l'école pour eux, c'est un élément important pour toute la question là, de recrutement d'employés là, dans leur usine. Fait qu'il y a plein d'éléments là, qui entourent ça, mais on n'est vraiment pas rendu là, à dire qu'on va étudier la viabilité de soit l'école Ernest-Land ou soit l'école régionale Saint-Joseph.
Oui, parce que ça pourrait être un problème aussi pour ces villes-là, pour ces régions-là. Peut-être que si les gens disent, ben là, il n'y a plus d'école, où est-ce qu'on va aller s'installer? On n'ira pas déménager dans le coin de Saint-François, on n'ira pas déménager dans le coin de Saint-Joseph. Là, ça dépasse même le cadre là, des écoles. Là.
Absolument. Donc, il y a plein de répercussions, plein d'enjeux qui doivent être étudiés avant de même penser à dire qu'on étudie la viabilité ou de même encore pire, penser qu'on recommande une fermeture d'école. Donc, je répète, je veux vraiment là, que mes deux communautés ciblées ici, là, qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas du tout question que le conseil d'éducation est là à étudier la viabilité de ces écoles-là. Il faut dire, toute la question là, d'étudier la viabilité d'une école, c'est un dossier qui appartient au conseil d'éducation. Donc, c'est lui qui est responsable de mettre ça en œuvre. Puis, si vous prenez connaissance de la politique 409 sur le site de la province, qui dicte tout le processus à suivre pour arriver à ça, c'est vraiment eux qui ont le gros bout du bâton là, derrière ça. Là. Mais, comme j'ai mentionné à quelques reprises, le conseil n'est pas là du tout dans ces discussions à la table.
C'est présentement, oui, peut-être une déclaration, une idée là, qui est sur la table seulement. Des fois, c'est ça, les gens ont « bon, est-ce qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça? » Donc, pour l'instant, c'est encore au stade très, très, très là, de base, là, mais c'est quelque chose qui pourrait évoluer et en cas, justement, là, d'évolution dans ce dossier-là. Bien sûr, on s'en reparlera. Merci beaucoup, M. Caron. C'était Luc Caron pour vous.
Merci,
du
Michael.
District scolaire francophone du Nord-Ouest. Merci à vous.
Merci à toi.
Bonne journée. Michael Robitaille, IJL Consortium.